des semaines à suivre, c'est tourne la page. OK? On va dire ensemble, tourne la page. Comme j'ai déjà mentionné il y a quelques semaines dernières, ou peu importe, j'aime beaucoup lire. OK? J'aime beaucoup lire, mais principalement, j'aime lire pour m'instruire. Okay? J'aime lire pour m'instruire, pour apprendre quelque chose. J'ai de la difficulté à lire des romans, okay? Des romans fictifs ou quelque chose. J'accroche pas à ça, difficilement. Il faut que ma lecture, à la fin, on dirait, m'ait apporté quelque chose. Okay? Et je sais que pour des personnes, cette lecture-là fictive de romans, c'est votre façon de vous évader, c'est votre loisir et c'est bon. Mais pour moi, non, ça fonctionne pas. Okay? Et lorsque je lis un livre, en plus, sur un livre de 200 pages, après 20, 30 pages, si ça m'a pas accroché, j'arrête de lire. Hein? Après le premier, deuxième chapitre, des fois je donne un peu plus de chance, mais après un certain temps, s'il y a rien qui m'accroche vraiment et qui me dise continue de lire, ça va valoir la peine, j'arrête de lire. Mais pourtant, peut-être que j'ai arrêté de lire des livres, et ça m'est déjà arrivé. J'ai arrêté de lire certains livres que j'ai serrés dans ma bibliothèque et que j'ai sortis 2, 3, 4 ans plus tard, et que finalement j'ai dit, OK, c'est bon, je vais lire ce livre-là. Je me suis rendu jusqu'à la fin, et j'ai dit, wow! Avoir su, je l'aurais terminé la première fois. Avoir su, j'aurais tourné la page. Et ce matin, je veux vous dire ceci. Si tu ne tournes pas la page, tu ne sauras jamais la fin de l'histoire. Hein? Oui. Si vous devez partir avec quelque chose aujourd'hui, je vous le dis, c'est ça. Si tu ne tournes pas la page, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui ont arrêté de lire l'histoire de leur vie beaucoup trop tôt. Vous avez arrêté de lire, vous avez arrêté de croire, vous avez arrêté d'espérer et vous avez jugé que telle était votre histoire. Et c'est cette histoire-là, pardon, non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et c'est cette histoire-là, malheureusement, que vous racontez aux autres. Parce que si quelqu'un me demande de lui expliquer de quoi parle ce livre que j'ai arrêté de lire à la moitié, qu'est-ce que je vais lui raconter? Je vais lui raconter seulement la moitié que j'ai lue. Et tout le monde va me demander, est-ce que tu me recommandes ce livre-là? Je vais dire non. Non, 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 les premières pages que j'ai lues, c'était mauvais. Non, la première moitié que j'ai lue, écoute, il raconte juste ça, il n'y a rien de bon. Et tout le monde qui va me demander, est-ce que tu me recommandes ce livre-là? Je vais répéter la même chose, je vais dire non. Et pareillement dans nos vies, lorsque les gens nous demandent de raconter notre histoire, tout ce qu'on raconte, c'est là où on a arrêté de lire. Et on raconte aux gens une histoire qu'on pense être la nôtre, mais elle est incomplète. Et trop de gens ont lancé la serviette beaucoup trop tôt. Que ce soit à cause de blessures, que ce soit à cause de déceptions. Vous avez tout simplement arrêté de croire. Et vous avez tout simplement fermé la page, fermé le livre et... vous bâtissez maintenant votre vie basée sur une histoire qui est incomplète. Et le pire dans cette histoire incomplète-là, c'est que vous savez comment des fois on pense vivre, mais on ne vit pas vraiment. Ou on pense être quelqu'un, mais en réalité, on n'est pas quelqu'un. En réalité, on est devenu tout ce qu'on pensait que les autres voulaient qu'on devienne. On montre aux autres l'image qu'on pense que les autres veulent voir de moi. Donc, en grandissant, je ne grandis pas comme étant Ken Mafou, mais je regarde les gens autour de moi, je regarde la société autour de moi, je regarde les amis que je veux avoir, je regarde les choses que je veux avoir, et je me dis, si je veux aller chercher ces choses-là, comment est-ce que Ken Mafou doit être? De quel genre de Ken Mafou que cette personne-là veut? Quel genre de Ken Mafou qui va réussir à avoir ça? Donc, je bâtis mon Ken Mafou déterminé sur les autres, sur les circonstances. Et un jour, on arrive à un temps, peu importe l'âge, mais qu'on appelle la crise de la quarantaine, des fois, cinquantaine, ou peu importe, où on réalise que c'est l'histoire de qui j'ai raconté finalement. J'ai raconté l'histoire que les autres voulaient que je leur raconte, ou j'ai vraiment raconté la mienne. Et là, il y a un choc. Il y a un choc qui se fait. Il y a un choc qui se fait parce qu'on réalise qu'on n'a jamais vraiment été qui nous sommes vraiment. Mais on est perdu. Parce que, veux, veux pas, on a vécu toutes ces années-là. On a produit quelque chose toutes ces années-là. Donc, comment est-ce que je fais pour devenir quelqu'un d'autre? Ben, en réalité, la question, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est de devenir qui tu as toujours été. Mais que tu n'as jamais peut-être montré. Parce que peut-être c'était pas suffisant. Peut-être que les autres voulaient autre chose. Tu as simplement donné ce que les autres voulaient. Et tu as arrêté de lire beaucoup trop tôt. Parce que si tu ne tournes pas la page, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire. Il y a des personnages dans la parole de Dieu. On va voir spécifiquement Abraham, on va voir Sarah ce matin. Je vous invite à tourner avec moi en Romains chapitre 4, au verset 17, et on va voir ce que la Bible nous dit à propos d'Abraham et à propos de Sarah et l'espèce de, comment dire, les belles paroles que la Bible nous dit à propos d'eux. Romains chapitre 4, au verset 17 à 21, on va lire ça ensemble, hein. Donc, la Bible nous dit, Romains chapitre 4, donc il parle d'Abraham et tout ça, et de la foi, verset 17, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Verset 18, on nous parle ici d'Abraham, de la foi qu'il a eue par rapport à la promesse de Dieu, « espérant contre toute espérance. » Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que celui, ou plutôt que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Ah! Quel beau témoignage, n'est-ce pas? Quel beau témoignage d'Abraham, d'un homme de foi. Mais si on lit un peu plus tôt dans l'histoire d'Abraham, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. C'est pas nécessairement ça à 100%. Mais sans faiblir dans la foi, il eut la pleine conviction. Mais moi ici, j'ai juste ici en Genèse, chapitre 17, au verset 15, donc Genèse 17, 15, où Dieu parle à Abraham et lui dit, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Verset 17, Abraham tomba sur sa face et il rit. Et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils, un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, c'est correct, je vais me contenter d'Ismaël. Fais-moi pas des faux espoirs. Qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Mais juste avant, on a lu quoi? Qu'il n'a pas considéré que son corps était usé. Hein? C'est pas ce qu'on vient de lire ici, là. Hein? Il n'a pas affaibli dans la foi. Mais tout, pourtant, il dit à Dieu, non, c'est correct. J'ai abandonné cet espoir-là. J'ai eu un autre fils, d'une autre façon. C'est correct, je vais faire avec. Et combien de fois on fait ça dans nos vies? On vient dimanche, on entend la parole, on est fortifié, on est édifié, mais on se dit après, c'est pas pour moi. Oui, mais il doit y avoir quelque chose de différent dans ma vie. Oui, mais moi, j'ai quelque chose que... je sais pas quoi. On se laisse avoir par les mensonges de l'ennemi. On dit, on vient devant Dieu, on dit, écoute Dieu, merci. Si seulement tu peux faire ne serait-ce qu'un petit peu, mais tout le reste, j'ai entendu ta parole. Quelqu'un vient, prophétise sur notre vie, donne une parole. On dit, oh wow, seulement Seigneur, si c'était vrai, c'est bon. Mais écoute... j'y crois pas, ça peut pas m'arriver à moi, ma vie comme ça, je l'aime, c'est correct, aide-moi juste à m'en sortir. Et on accepte de vivre en deçà de ce que Dieu a pour nous. Pourquoi? Par crainte, par peur. La peur d'échouer, la peur d'avoir encore mal, la peur de ne pas réussir, la peur de réussir. Et Sarah, wow, la Bible nous donne exactement le même témoignage à propos de Sarah. En Genèse chapitre 18, au verset 9, hein, l'Éternel envoie ses anges vers Abraham. Et donc, Genèse 18, à partir du verset 9, les anges lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Je vous dis ça ce matin. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Mais j'aime tellement le témoignage à propos de Sarah en Hébreux chapitre 11, verset 11, qui nous dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que c'est ça qu'on vient de lire? Ok. C'est un peu différent. C'est parce que contrairement à vous, quand Dieu raconte votre histoire, il raconte vos bons coups, il raconte vos bons moments, il raconte ce qu'il a établi d'avance pour vous. Amen. Hébreux, chapitre de la foi, chapitre 11, tous ces héros de la foi. Il ne perd pas son temps à dire, oui, mais tu sais, Abraham, il a douté et tout. Non, ne doutant point. Parce que oui, ils ont douté. Mais un jour, ils ont cru. Peut-être avez-vous douté. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez plus croire? Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que ça signifie que ça ne peut jamais réussir? Peut-être que vous avez été trahi. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne rencontrerez jamais quelqu'un de confiance? Peut-être que vous avez tout mal fait jusqu'à maintenant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour vous? Peut-être que vous vous sentez seul aujourd'hui et que vous avez toujours été seul. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais plus personne à vos côtés? Si vous ne tournez pas la page, vous ne connaîtrez jamais la fin de l'histoire. Si tu lis seulement l'Ancien Testament, tout ce que tu te souviens, c'est qu'Abraham a ri. C'est que Sarah s'est ri de la promesse de l'Éternel. C'est que les deux, n'y croyant plus du tout, écoute, tu es rendu désespéré quand tu dis à ton mari, c'est correct, hein, va coucher avec mes servantes. Tu n'y crois plus vraiment, là. OK? Moi, je ne peux pas en avoir les enfants. Mais toi, pour que ton nom persiste, subsiste, vas-y. Ce n'est pas vraiment un acte de foi, ça. OK? Mais pourtant, Hébreux 11 enregistre qu'elle crut à la fidélité. Et voyez ce qui est beau, c'est qu'on on voit pas le jour nécessairement où est-ce que, hein, la Bible nous dit, elle a ri, elle a douté, et plus tard on lit qu'elle crut à sa fidélité, mais entre les deux, on voit jamais le jour où ce que Sarah s'est repentie dans sa tente et a dit, et a confessé la parole, elle a dit, oui, c'est vrai Seigneur, c'est ta promesse, j'y crois, j'avance, go. Non, on n'a pas vu ça. Hein? Mais Dieu l'a écrit, lui. Et Dieu l'a vu. Et Dieu a agi. Alors, où est votre foi aujourd'hui? Vous mettez votre foi en quoi? En ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Ou vous mettez votre foi en ce que vous n'avez pas encore lu? Mais je vais le redire, si tu ne tournes pas la page, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire. Et si ça ne finit pas comme je veux? Si tu ne tournes pas la page, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire. Tu as arrêté de lire. Tu as arrêté de lire parce que tu étais satisfait de cette histoire-là? On arrête de lire et on a peur d'avancer les pages au cas où ce que ça termine pas comme on veut. Mais on arrête de lire à un endroit où c'est déjà pas comme on veut. Donc, on se préfère se contenter d'un pas comme je veux que je connais et que je peux contrôler, d'un peut-être que ça sera pas comme je veux que je peux pas contrôler, que je sais pas. Hein? Vous avez compris? Vous avez suivi, hein? Hein? Bof. Hein? Hein? C'est de dire, ben, il faut choisir. Peut-être que si j'avance, ça va être pire que c'est maintenant. Mais qu'est-ce qui est pire? Perdre l'espoir que peut-être ça va être mieux et se contenter de quelque chose qui ne nous satisfait déjà pas? Les statistiques disent que 80 à 85% des gens vont travailler tous les jours dans des emplois qu'ils n'aiment pas. Okay? 80 à 85% des gens se rendent au travail qu'ils n'aiment pas. Oh, c'est lundi. Woo, thank God it's Friday. OK? Merci Seigneur. Vendredi, j'avais quoi? 17 ans, 18 ans, cherchais un travail d'été, j'ai trouvé un petit travail à 2 minutes de chez moi, à une usine de transformation d'aliments, de viande et tout ça. Moi, je travaillais là pour l'été, pour me faire de l'argent, mais il y avait des gens qui travaillaient là depuis des années. Il n'y a rien de mal à travailler dans ces genres d'endroits-là. Le problème, c'est que à tous les lundis, je les entendais se plaindre. À tous les mercredis, je les entendais dire, il en reste seulement deux. À tous les vendredis, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oui, c'est vendredi. Sans exagérer, là. À tous les lundis, c'est la même chose. À tous les mercredis, ça va un peu mieux mercredi parce qu'il en reste juste deux. Et vendredi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de lire. On a arrêté de lire. Parce que peut-être qu'on t'a dit que c'est tout ce que tu pouvais espérer comme emploi. Peut-être qu'on t'a dit que toi, tu devrais juste pas faire des études. C'est pas fait pour tout le monde faire des études. Toi, tu veux faire ça comme... Non. Il y a un monsieur qui s'appelle Les Brown, c'est un conférencier, motivateur et tout ça. Il raconte son histoire, il raconte que lui, abandonné par ses parents biologiques, jamais connu ses parents. Abandonné, a été ramassé quelqu'un comme ça par quelqu'un, lui et son frère jumeau. Cette dame-là les a pris chez eux, les a élevés, et toute sa vie, tout le monde lui a dit qu'il était le plus stupide des deux jumeaux. Hein? Que son frère était beaucoup plus intelligent que lui. Que lui pourrait jamais faire des études. Un jour, il s'en va voir un orienteur, il dit à l'orienteur, moi, je vois des messieurs qui parlent en avant et tout ça, j'aimerais ça faire ça. Il dit, sans rien pour faire ça, il faut des études. Et toi, t'es pas capable de faire des études, mon ami. Il dit, regarde, prends ça, va à la ville, il cherche des concierges et tout. Va ramasser les ordures ou je sais pas quoi, ou fais ci, ou fais ça, ou, peu importe, là. Et il dit, il donne une liste d'emplois qu'il peut faire, c'est juste ça qu'il peut faire. Et il dit, je suis parti avec cette liste-là. Et je suis allé voir pour cet emploi-là, parce que c'est ce qu'on m'a dit, la seule chose que je pouvais faire. Et en plus, il avait un déficit intellectuel, hein, un léger déficient intellectuel, donc oublie ça. Mais un jour, alors qu'il attend un de ses amis dans la classe, il est là, il attend un de ses amis, il y a un professeur qui est là, le professeur lui dit, écoute, tant qu'à être là, est-ce que tu peux écrire quelque chose au tableau pour moi? Il dit, non, monsieur, je peux pas. Moi, j'attends mon ami et tout ça. Il dit, ben, va au tableau, écris, qu'est-ce que je te demande d'écrire? Il dit, non. Il dit, pourquoi? Ah, parce que je suis débile. Je suis déficient intellectuel et je peux pas. Il dit, qui t'a dit ça? Hein? Il dit, ils m'ont dit que je pourrais rien faire de ma vie, que je pourrais pas faire d'études dans ma vie. Il a dit, oublie ça. Il dit, laisse jamais personne te dire ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et aujourd'hui, cet homme-là, maintenant, à partir de ce témoignage-là, ça n'a pas été facile du jour au lendemain parce qu'il a dû briser tous les autres préjugés. Il a dû briser à tout ce qu'on lui a dit. Mais un jour, il a décidé de foncer. Il a décidé, j'y vais pour mon rêve. Donc, sans études, il s'est acheté des livres, il a étudié à travers des livres, il est allé voir des gens, il a fait des appels. Et aujourd'hui, cet homme-là, est à travers le monde, fait des conférences, il parle devant les gens, parle devant les ministres, parle devant des compagnies comme Nike, IBM, n'importe quoi, les plus grosses des compagnies. Il fait des millions de dollars, quelqu'un qu'on lui a dit qu'il serait même pas assez bon pour faire des études. Donc, si tu veux tourner la page aujourd'hui, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'écouter tout ce qu'on t'a dit que tu ne pourrais pas faire. Laisse pas les circonstances décider ce que tu peux faire ou non. Laisse pas les autres décider ce que tu peux faire ou non. Laisse pas tes erreurs décider ce que tu peux faire ou non. Laisse pas tes blessures, surtout, décider ce que tu peux faire, pas faire ou non. Okay? Si on veut tourner la page, il va falloir en revenir. Okay? Un bon Québécois, on dit « reviens-en ». Non, sérieusement, là. Okay? Il va falloir en revenir de cette histoire-là. Parce que de toute façon, t'as arrêté de lire, t'as fermé la page. De toute façon, tu veux plus continuer à tourner les pages. Donc, tant qu'à arrêter de lire, reviens-en. Là.
Parce que je te dis que si tu n'en reviens pas, c'est cette histoire-là qui va constamment revenir. Hein? Mais si tu veux tourner la page, si tu veux aller de l'avant, il faut que tu arrêtes de relire et de relire et de relire et de relire la même histoire. Mon fils, tu lui achètes un nouveau livre, et justement, pas plus tard qu'hier, sa grand-mère est arrivée avec un nouveau livre, et s'il ne lit pas 10 fois de suite, tout de suite, il ne lit pas. On est là, avec son livre, s'assoit sur grand-maman, il lit le livre. Va s'asseoir sur la tante, on lit le livre. Va s'asseoir sur maman, on lit le livre. Hey, papa, est-ce que tu veux... T'as pas déjà lu 5 fois? Hein, on va attendre un peu, s'il te plaît. Non! OK. Et tu lis le livre avec lui, et il dit les phrases avant toi, là. Pourquoi? Parce qu'il la connaît par cœur maintenant. Est-ce que vous êtes du genre à... Vous êtes rendu au point où les gens qui vous entourent sont capables de finir l'histoire avant vous? Tellement que ça fait longtemps que tu racontes la même histoire. Ouch. OK? Peut-être tant que tu tournes la page, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais tant que tu continues à raconter la même histoire, c'est la même histoire que tu vas avoir. Ce sur quoi tu mets ton focus, c'est la chose à laquelle tu donnes du pouvoir. Hein? Ce sur quoi tu mets ton focus et ton attention, c'est la chose à laquelle tu donnes du pouvoir. Prends un joueur de basketball, par exemple. Ligne de lancer franc, 2 lancers à faire, était accroché, punition, 2 lancers à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà juste vu un peu un match et tout ça. C'est la frénésie dans le stade. Et surtout s'il est chez l'équipe adverse, tout le monde veut qu'il manque son panier. Tout le monde veut qu'il manque son lancer. Donc, ils sont là avec toutes les choses qui font du bruit, pour faire de pollution visuelle, si on peut dire. Ils sont là devant lui, devant le panier, ils se déconcentrent. Il y en a à côté, de l'autre côté, il y en a en avant, il y en a en arrière qui crient. Et Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils peuvent lui crier, là. OK? Tu en as de toutes les sortes. Et lui, là, à la ligne, et la seule chose sur laquelle il doit focusser, c'est le panier. Parce que derrière le panier, il y a ça. OK? À côté, il y a ça. Il y a la pression de dire, si tu le manques, tout le monde va rire de toi. Si tu le manques, ton équipe peut perdre à cause de toi. Si tu le manques, ton coach va te mettre sur le banc. Où est-ce que tu décides de focusser? Tu focuses sur les bruits, tu focuses sur ce que tu vois, ou tu focuses sur ce que tu as à faire? Parce que je vous dis que la seconde où est-ce que vous focussez sur ce qui est à côté, c'est la chose à laquelle vous donnez du pouvoir. J'étais tout concentré hier quand je jouais aux quilles. Que je me visualisais en train de lever le trophée. Et là, j'avance, je lance. Au moment où est-ce que je m'en vais pour lâcher ma boule, il y a quelqu'un que je n'aimerais pas. Du nom de famille de Leclerc, Gino, qui me crie je sais pas quoi, mais c'était tellement pas le moment. OK? Donc, à la dernière seconde, la boule est partie tout croche de mes doigts et tout ça. Oui, c'est de sa faute. OK? Mais le problème est où? Je n'ai pas réussi à me focusser assez sur mon objectif. Hein? Comment vous pensez que les athlètes, les golfeurs, écoute, les golfeurs, c'est un stress immense. Comment est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à performer à des hauts niveaux sous tant de pression? C'est qu'ils ont appris à focusser sur une chose à la fois. Et j'entendais quelqu'un parler justement des gens qui ont du succès dans la vie, des gens qui, les hommes d'affaires et tout ça. Il dit, il y a un homme d'affaires, écoute, il ferme son téléphone cellulaire. Il y a des moments où il faut qu'il ferme ses appareils, il faut qu'il ferme son téléphone. Pourquoi? Parce que dans ton téléphone, dans tes appareils, tu as toujours plein de distractions. Il dit, les hommes ou les femmes qui ont le plus de succès, c'est les gens qui sont capables de focusser sur les choses importantes. Donc, est-ce que vous allez focusser sur les bruits ou vous allez focusser sur la parole de Dieu? Parce que la chose sur laquelle vous mettez votre attention et votre focus, c'est la chose à laquelle vous donnez du pouvoir. Donc, si vous voulez donner du pouvoir à quelque chose, donnez du pouvoir à la parole de Dieu. Parce que si votre focus est sur la parole, si votre focus est à écouter la parole, si votre focus est à proclamer la parole dans votre situation, c'est à ça que vous allez donner du pouvoir. La Bible nous dit, cette parole ne leur servit de rien parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi. La Bible est là, mais si vous ne la recevez pas avec foi, si vous ne la mettez pas en action dans votre vie avec foi, elle ne vous sert à rien. Cette puissance-là, elle est là. Elle est toute prête à être utilisée. Mais elle n'est activée qu'au moment où vous la mettez en action. Qu'est-ce qui est arrivé avec Pierre lorsqu'il a marché sur l'eau? C'est que son focus, lorsqu'il a marché sur l'eau, était sur Jésus. Mais à un moment donné, il est tombé. Pourquoi? Parce que son focus a changé. Son focus a été sur les circonstances autour de lui. Donc, si vous voulez avancer, si vous voulez vous en sortir, arrêtez de focusser sur ce qui s'est passé avant. Arrêtez de focusser sur vos mauvais coups. Arrêtez de focusser sur qu'est-ce qu'on vous a fait subir. Okay. Arrêtez de focusser sur les blessures. Pardonnez si vous avez besoin de pardonner. Parce que je vous le dis, tant que vous ne pardonnez pas, vous donnez du pouvoir à cette situation. Vous donnez du pouvoir à cette personne qui peut-être n'est même plus là, qui peut-être elle est morte, puis peut-être elle habite à des kilomètres. Peu importe, vous lui donnez la possibilité d'agir dans votre vie, tout simplement parce que ça reste encore un focus pour vous. Relâchez-vous de ça. C'est temps de tourner la page. Parce que l'histoire est loin d'être terminée. Parce que si vous voulez savoir la fin de l'histoire. Okay? Elle est là, notre responsabilité à nous. Vous savez, la vie, vous savez comme moi, là, a son lot d'obstacles, a son lot de bonnes, de mauvaises nouvelles, a son lot de bonnes, de moins bonnes journées. Mais notre responsabilité à nous, c'est quoi? Notre responsabilité à nous, c'est de toujours garder notre objectif de vue. Et peu importe ce qui arrive autour de nous, on continue. Et on continue. Et on continue. Parce que si tu continues pas, il y a une chose que je peux t'assurer. Si tu continues pas, tu n'y arriveras jamais. Je peux t'assurer de ça. Si tu arrêtes de courir, tu n'arriveras jamais à la ligne d'arrivée. Si tu arrêtes d'espérer, tu n'auras jamais ce que tu espères sans vouloir dire à haute voix que tu l'espères. Si tu lances jamais au panier, tu ne l'auras jamais. Mais combien osent même pas lancer par peur de manquer? Okay? Tu as peur de manquer, donc tu ne lances pas. Mais de ne pas lancer, je peux t'assurer que tu ne l'auras pas. Mais on dirait que c'est plus facile de. C'est plus facile. Pourquoi? C'est comme j'ai choisi. J'ai choisi de ne pas lancer. Et on fait à croire à tout le monde qu'on est bien avec cette décision de ne pas lancer. On est bien de vivre avec cette décision de dire oui, je sais, oui. Parce que ce qu'on dit, c'est quoi? Je suis correct avec la médiocrité. C'est que ça veut dire quoi, médiocrité? Okay? Est-ce que je suis en train de dire que votre vie vaut rien? Non. Je suis en train de dire que si tu sais clairement que tu peux avoir plus, si tu sais clairement que tu n'es pas satisfait de la situation où tu es, et que Dieu te promet davantage, oui, tu te satisfais de ça. Hein? Et tu n'as pas ton voisin, tu n'as pas ta femme, tu n'as pas ton mari, tu n'as surtout pas Satan à blâmer pour ça. Hein? Parce que Satan, des fois, il a un dos large, très large. Ah, tu ne sais pas ce que l'ennemi m'a fait cette semaine. Ah, tu ne sais pas ce que l'ennemi a fait la semaine dernière. Je vais te dire ce que l'ennemi a fait. Il rit. Il rit les bras croisés. Parce qu'il a dit, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de semer un doute dans sa tête. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de semer l'incertitude dans sa tête. C'est de semer la confusion dans sa tête. Et maintenant, il a attrapé ça. Et c'est lui-même qui continue. Et le pire dans tout ça, c'est que maintenant, il est en train de blâmer Dieu pour ça. Alors oui, il a les bras croisés et il rit. Hein? Ouais. Moi, avoir l'image de Satan, les bras croisés, en train de rire de moi, non. Non. Ça ne me réjouit pas beaucoup, là. On parlait de joie tout à l'heure, non, ça ne me rend pas très joyeux, ça. C'est temps de se lever, là. C'est temps de prendre le contrôle. Le contrôle de nos vies, nos vraies vies. La vie que Dieu a préparée pour nous d'avance. Et dans tout ça, il faut retenir quelque chose, là. C'est pas n'importe qui écrit votre histoire. OK? Ça vaut la peine de tourner la page, hein? Tout simplement pour le fait que ce n'est pas n'importe qui écrit votre histoire. Hein? C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées. Celui qui est assis au-dessus de tout. Celui qui va revenir un jour et que par un seul souffle de sa bouche va tout anéantir. Celui qui au seul son de son nom, lorsqu'ils sont venus le chercher, l'attraper, qui cherchez-vous, Jésus de Nazareth, c'est moi. Boum! Ils sont tous tombés par terre. C'est pas Stephen King là, qui écrit ton histoire. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que ça serait étonnant que ça ait mal commencé, que ça finisse bien? Pas si tu sais qui écrit ton histoire. Wow. Et on sait très bien qu'il a des bonnes œuvres préparées pour nous. Qu'il a des bonnes œuvres de préparer pour nous. Que l'histoire qu'il a préparée d'avance pour nous, nous le savons qu'elle se termine bien. Oui, mais ça ressemble pas à ça maintenant. Je t'ai pas demandé de fixer tes yeux sur ce que ça ressemble maintenant. Je t'ai demandé de tourner la page. Parce que si tu ne tournes pas la page, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire. Et tu te retrouves avec des gens qui vivent leur vie sans exploiter la moitié de ce que Dieu a mis en eux. Quelqu'un a dit un jour, si tu veux trouver les gens les plus riches, va-t'en au cimetière. Si tu veux trouver les gens avec le plus d'espoir, va-t'en au cimetière. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont morts avec des idées d'entreprise qui n'ont jamais eu le courage de mettre de l'avant. Il y a tellement de gens qui sont morts avec plein de potentiel, mais qui n'ont jamais eu le courage d'aller de l'avant. Vous savez qu'à la fin de la journée, c'est pas nécessairement les plus talentueux qui sont en avant, là. Ah, le talent, c'est bien. Le talent, je pense que c'est nécessaire. Le don, c'est nécessaire. Mais c'est pas seulement les plus talentueux qui sont en avant. Hein? C'est ceux qui osent faire quelque chose avec ce qu'ils ont. Parce que tu vas comparer deux personnes, tu vas dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que lui est beaucoup plus talentueux que lui. Il me semble que lui est beaucoup plus doué que lui. Mais il y a quelqu'un qui s'est assis dessus et qui a dit, je ferme l'histoire. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je continue parce que mon histoire n'est pas terminée. Okay? Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que Dieu écrit? Si vous avez vu été à des funérailles ou okay, j'ai pas nécessairement l'habitude de me promener dans les cimetières la nuit, mais j'ai jamais vu nécessairement sur une pierre tombale écrire beaucoup de potentiel, mais bon à rien. Son manque d'espoir l'a tué. Né dans une famille d'alcooliques, l'alcool a eu le dessus sur lui. Vous avez déjà vu ça décrit sur une pierre tombale, vous? Hein? Savait depuis le début, c'est quelqu'un qui n'aurait fait rien de bon dans sa vie. Non, ce qui est écrit sur une pierre tombale, c'est ça ressemble un peu plus à ce que Dieu a dit à propos de Sarah. Ce que Dieu a dit à propos d'Abraham. Parce que sur la pierre tombale, parce que lors des funérailles, de quoi tu te rappelles? Tu te rappelles des bons coups. Tu te rappelles des bons moments. Amen. Et Dieu, lorsqu'il écrit votre histoire, lorsque ça va être le temps pour vous d'aller le rejoindre, lorsqu'il va vous recevoir, ils vont applaudir. Et ils diront pas, celui qui est mort avec un rêve que j'avais mis en lui, mais que j'ai jamais eu le courage de le mettre à l'action. Celui qui n'a jamais osé avoir le courage de pardonner, mais qui a préféré rester fâché, mais que ça n'a rien donné. Non. Vous allez arriver au ciel, et vous allez voir l'histoire qui était écrite pour vous. Et vous allez faire comme moi toutes les fois où j'ai repris ces livres-là que j'avais abandonnés, et je vais dire, waouh, si j'avais su, je l'aurais lu bien avant. Hein, on pose souvent cette question, si vous pouviez faire n'importe quoi, que vous aviez l'assurance que ça allait fonctionner, que vous aviez tout l'argent nécessaire pour accomplir cette chose-là, que feriez-vous? Vous êtes sûr, aujourd'hui, en sortant d'ici, que ce que vous voulez faire, ça fonctionne? Vous allez faire quoi? Et maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous empêche de faire? Okay? Je parle pas de... Okay? De rêve... Okay? Je parle de désir sincère, d'aspiration sincère. Que vous croyez vraiment en plus que c'est le Seigneur qui a mis ça en vous. Que feriez-vous? Et posez-vous la question. Quelles sont les trois raisons principales pourquoi tu ne le fais pas? Et ensuite, dites-vous, est-ce que ces trois raisons-là sont suffisantes? Est-ce que ces trois raisons-là vont au-delà de la parole de Dieu. Et dites-vous, y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Hein? Je vais inviter l'équipe de louange à venir devant. Et l'histoire, c'est qu'il y en a partout, hein. Dans l'église, à l'extérieur de l'église. Des gens qui se retrouvent à vivre une vie que, ont l'impression qu'ils n'ont pas choisi. Des gens qui se retrouvent à vivre une vie qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas changer, qu'ils ne peuvent pas, contrôler. et on apprend tout simplement à faire avec. Mais je voudrais dire, si tu ne tournes pas la page, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire. Okay? Et ce qu'il faut que tu te dises aujourd'hui, c'est que la fin de l'histoire, puisque c'est Dieu qui écrit ton histoire, elle est vouée au succès, à la réussite, à la bénédiction, à porter du fruit. Okay? Donc, ne laisse pas la crainte, ne laisse pas le doute, ne laisse pas l'incrédulité, le ressentiment t'empêcher d'accéder à tout ce que Dieu a pour toi. Ça serait triste, ça serait triste. Ça serait semblable à ces gens-là qui, qui passent leur temps tout simplement à raconter combien, dans le temps j'étais comme si, dans le temps j'étais bon, dans le temps, à mon école, c'était moi le meilleur, à telle place, c'était moi, oui, peut-être que tout ça c'est vrai, peut-être que tout ça c'est bon, mais aujourd'hui, il se passe quoi? Dans le temps, c'est dans le temps. OK? Aussi bon ou aussi misérable que tu étais dans le temps, c'est dans le temps. Donc aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, tu fais quoi? Parce que c'est ce que tu as fait dans le temps ou c'est ce que tu as cru dans le temps qui fait en sorte ce que tu fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui encore, tu as l'opportunité de décider quelque chose aujourd'hui qui va déterminer ce qui va se passer demain. Okay? Et ça, c'est... Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Faut y croire. Faut y croire. À la base, à la fin de tout ça, c'est la foi. C'est de croire davantage à ce que Dieu me dit qu'à ce que je vois. Focusser sur la parole. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, dis, je t'ai donné ma grâce et je te donne grâce sur grâce selon la droiture de ton cœur. Je te donne grâce sur grâce.
Amen. 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 Alléluia. Et la beauté de ça, c'est que la grâce et la justice de Dieu sont accessibles et sont là pour tous ses enfants. Okay? Par son sacrifice à la croix. Mais il faut y croire. Tu tournes la page, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la page, là. OK? C'est tellement illogique, mais on est tous dans ce piège-là. C'est beaucoup plus facile de s'accrocher avec ce qu'il y a avant, parce que même si c'est pas bon, on sait qu'est-ce qu'il y avait avant. Même si en Égypte, j'étais maltraité, j'ai appris à m'en sortir. J'ai appris, je sais qu'ils vont me donner ça à manger, je sais que je vais avoir ça à travailler. Au fil des années, j'endure la douleur, j'endure la souffrance, mais de l'autre côté de la page, j'ai aucune espèce d'idée de ce qui va arriver. Hein? Mais moi, je le sais, qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté de la page? Dieu va m'emmener grâce après grâce après grâce après grâce. Dieu va vous emmener de bénédiction en bénédiction en bénédiction. Est-ce qu'il n'y aura jamais de mur qui va s'élever devant vous? Est-ce qu'il n'y aura jamais d'adversité devant vous? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, là. Aujourd'hui, on veut des choses. Mais quand on pense facile, dans la mentalité d'aujourd'hui, facile, c'est sans effort. Il y a des choses qui ne sont pas si compliquées, mais qui demandent un effort quand même. Dès qu'il faut que je sue un peu, dès que ça va me faire un petit peu mal, dès qu'il faut que je travaille un peu, non. Oui, ça va te demander des efforts. Oui, ça va te demander de te battre contre ces pensées-là. Oui, ça va te demander, même si ça ne te tente pas, il va falloir que tu décides, est-ce que je continue à rester dans mon lit, à répéter la même histoire, ou je me lève, même si je suis trop fatigué, et je prends ma Bible, et je me bats avec la parole de Dieu. Oui, ça va te demander un effort. Parce que c'est beaucoup plus facile de rester dans ton lit, de dire, je vais me prendre une pilule pour m'endormir, puis demain, j'y repenserai plus. Amen. Mais je veux te dire quelque chose, si tu n'en reviens pas, et si tu l'affrontes pas, si un jour tu fais pas comme Paul quand il se promenait dans le marché, et qu'à un moment donné, cette dame-là, qui criait des choses, un jour il s'est relevé, ou plutôt il s'est retourné, et il lui a dit, il lui a parlé, si un jour, si tu n'oses pas te retourner à un moment donné, et faire face à ton problème, je veux te dire quelque chose, ça va te suivre tout le temps. Jusqu'à un jour, est-ce que tu penses que tout est beau? Que tu t'en es sorti, pourquoi? Parce que tu as réussi à patcher les trous. Mais il est juste là. Faire quoi? Attendant un moment plus opportun. C'est temps de te retourner, là. Ça fait assez longtemps que tu marches en espérant qu'il ne te suit plus, t'sais? C'est temps de se retourner. Et dire au nom de Jésus, ôte-toi de là. Et il n'y a personne d'autre que vous qui va faire ça, là. Appelle le pasteur, appelle le thérapeute, appelle ton frère, appelle ta mère, ils vont t'exhorter comme tu veux, là. On va t'encourager, on va t'élever, on va te lire la Bible. Appelle-moi. Appelle-moi, je vais t'écouter. Appelle-moi, je vais t'aider. Appelle-moi, je vais te donner des versets. Mais c'est pas moi qui va te dire à ton problème, ôte-toi de là et enlève-toi de là. Tu dois parler à ta montagne. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile d'appeler le pasteur parce qu'il va me transporter le temps qu'il faut. Ah, j'ai les épaules larges. Et tu sais quoi? Je vais te transporter le temps qu'il faut. Mais tu sais quoi? Pendant que je vais te transporter, tu sais qui va te suivre? Ton problème. Hein? Donc, un jour, il fallait que tu débarques, que tu dises, attends une seconde, pasteur. Je suis OK. Et tu te retournes, tu dis, c'est terminé. Je tourne la page. Toi et moi, c'est fini. C'est comme une rupture, là, tu sais. Au nom de Jésus, ôte-toi de là. Et tu continues. Et à chaque fois qu'il revient, tu fais la même chose. Eh oui, ça demande un effort. Okay. Mais aujourd'hui, des fois, c'est juste trop facile dans la vie de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas cet effort-là. C'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de gens, je vous le dis, là, Satan est là, les bras croisés, et il rit. Parce que vous traînez avec vous des choses que vous n'avez pas d'affaire à traîner. Vous traînez avec vous des choses que Jésus-Christ a clouées à la croix. Mais, je la connais cette histoire. C'est mon histoire. Faux. C'est ça le pire dans tout ça. C'est pas ton histoire. Ton histoire est ici. OK? Va être écrit quoi? On met ton nom dans Hébreux 11. On met ton nom à la pierre tombale. On va parler de toi. Il va être écrit quoi sur toi? N'ayant pas douté par incrédulité. Il s'est levé. Elle s'est levée. Elle s'est retournée avec autorité. Elle a dit à cette montagne, ôte-toi de là, parce que jamais, 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 elle n'a douté de la puissance de la parole de Dieu. Et l'ennemi va dire, arrête-moi ça. mais ce que Dieu a déclaré a autorité au-dessus du reste. Ce que Dieu a déclaré, c'est que David était pour être le prochain roi. Peu importe si son père n'a même pas daigné l'emmener. Peu importe si le prophète n'a même pas... Écoute, hein? Peu importe si ses frères, lorsqu'ils sont allés au combat, il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? À qui t'as laissé ces moutons-là? Peu importe si le roi, lorsqu'il l'a vu, il dit, écoute, je peux pas t'envoyer au combat, t'es qu'un enfant. Peu importe si Goliath l'a regardé, il a dit, écoute, je suis qui, moi, je suis un chien? Pour que vous m'envoyez ça? Ce que Dieu a déclaré, il n'y a personne qui peut changer. Ce que Dieu a écrit, il n'y a personne qui peut l'effacer. Sauf une. C'est toi. Pas moi. Je ne peux même pas changer l'histoire que Dieu a écrite pour vous. Je vais vous aider à entrer dedans. Mais il y a une personne qui a le pouvoir de mettre en action l'histoire de Dieu, et il y a une personne qui a le pouvoir de l'annuler, c'est vous. C'est vous. C'est pas vrai, ça. J'ai déterminé depuis longtemps dans ma vie qu'il n'y a pas personne, ni aucune circonstance, ni l'ennemi qui allait empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie. Donc, une fois que tu prends cette décision-là, qui est-ce qui reste? Toi et toi. Ça fait en sorte que tu lèves tes culottes, tu deviens un homme et tu prends tes responsabilités. OK? Responsabilité. Arrêtons de nous promener comme des enfants tout le temps. C'est la femme que tu m'as donnée. Hey, come on. OK? OK, on va arrêter là. Comment on conclut maintenant? Alléluia. Des fois, mes enfants, ils disent, papa, pourquoi tu cries après moi? Je dis, je crie pas. C'est juste que quand je suis... il y a quelque chose qui vient me chercher. J'ai l'impression que je suis fâché. Je donne l'impression que je suis fâché. Mais je suis pas fâché. Je suis transporté, emporté, parce que je vois tellement, malheureusement, de vie pleine d'espoir et de potentiel gaspillée. Et ça me fait mal. Ça me fait mal de traîner des gens sur mon dos et de dire, si tu savais combien de personnes tu pouvais porter sur ton dos. Mais je continue jusqu'au temps où ce que le Seigneur leur ouvre les yeux. Et c'est ma prière ce matin. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Amen. Comme au serviteur d'Élisée, que le Seigneur a ouvert les yeux. Et lui a montré finalement que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux ce matin. Et vous montrer que l'histoire qui vous attend est beaucoup plus merveilleuse que l'histoire que vous avez vécue jusqu'à l'instant. Alléluia. Merci Seigneur. Cora Santo. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. On a tous des domaines dans nos vies, Seigneur, où on a besoin de tourner la page. On a tous eu soit des blessures, des frustrations, des manquements, des peines, des déceptions, Seigneur. Mais aujourd'hui, on refuse de laisser quoi que ce soit venir entre nous et le plan, les projets merveilleux que tu as pour nous. Aujourd'hui, on refuse de laisser quoi que ce soit venir altérer, venir changer, venir effacer ne serait-ce qu'une parole de l'histoire que tu as écrite pour nous, Seigneur. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que ce que tu promets, tu as le pouvoir de l'accomplir. Que si c'est toi qui parles de ma vie, dans ma vie, que peut me faire un homme? Que si c'est toi qui écris mon histoire, de quoi aurais-je crainte? Et aujourd'hui, Seigneur, par les yeux de la foi, comme tu as demandé à Abraham d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, nous décidons aujourd'hui de tourner une page vers une histoire que nous ne connaissons pas encore, mais dont tu es l'auteur. Alléluia. Oh, merci, Papa. Parce que tu nous as appelés et que tu nous as établis afin que nous portions du fruit. Et c'est alors qu'on voit ces fruits en avance que nous nous réjouissons. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas de ce que nous possédons. Notre joie ne dépend pas de combien nous aiment ou combien nous aiment pas. Notre joie ne dépend pas, Seigneur, de ce que nous accomplissons. Notre joie dépend de ce que tu as fait de nous. Notre joie dépend de ce que tu as dit de nous. Notre joie dépend de ce que tu as prévu pour nous. Et notre joie dépend non pas de la vue, mais notre joie dépend de la foi. Parce que par la foi, on décide de dire oui. Par la foi, on décide de dire c'est accompli. Et par la foi, on décide de dire c'est à moi. Alléluia. Et par la foi, on décide de dire, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, parce que tu n'as plus aucune autorité dans ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Fais ça rapidement. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 C'est bon? Oui? Non, c'est bon? Tu viens? Ok. Rapidement.
Elle se poursuit, on va dire. Merci. Je me sens gênée. Excusez-moi, je vais parler, essayer de parler pas trop vite. Mais dans le fond, c'est que là, on prie, puis il y a des prières qui se font par des soupers, ça, vous savez tout ça. Puis à un moment donné, on parle à Dieu plus. Puis moi, j'avais un problème avec la proximité. Je suis une personne très, très sociale, mais la proximité, là, l'intimité, la proximité proche, là, j'ai tout le temps eu de la difficulté avec ça depuis des années à cause de toutes sortes de choses. Puis, je pensais que j'étais pris avec ça pour le reste de ma vie. Fait que j'étais rendue au point où que j'ai cru mes propres leurs, puis j'ai cru que je resterais avec ça. Puis, j'ai comme appris à composer avec ça, puis à me développer un peu avec ça. Puis, j'ai trouvé des moyens pour fonctionner, puis bon. Fait que je priais plus pour ça, parce que là, c'était rendu comme un constat. Puis, pour la fête des mères, ma petite Élisée, ma fille Élisée, on n'a pas pu se rencontrer, puis elle voulait absolument, elle m'offre tout le temps des affaires spéciales de qualité, là, comme par exemple un traitement de facial qu'elle appelait ça, elle. Des affaires que je ne connaissais pas vraiment, en tout cas. Puis moi, j'aime pas ça. Je pensais que j'aimais pas ça, ces affaires-là. Puis là, tout de suite, je suis raide, puis je suis comme non. Mais là, elle dit, à place, viens, on va aller au magasin, on va s'acheter, on va aller manger au restaurant ensemble. Mais oui, moi, ça aussi, maman, mais là ah! Mais là, comme le Seigneur, il nous connaît très bien, et que c'est ma petite Élisée, bien, ça avait été activé, mon obéissance, par l'amour que je lui porte, parce que je ne voulais tellement pas la décevoir, puis elle insistait tellement. Maman, mais j'ai tout fait, pour être franche avec vous, là, je suis coupable, j'ai tout fait pour essayer de changer ses idées. Fait que finalement, je me ramasse là, toi, dans la cabine avec ta fille-là. Oh, mes aïeux. Ah, baisse les lumières. Oh, mes aïeux. Et là, je paniquais. Puis là, ça passe en langue. Puis là, je prie en langue. Puis là, Seigneur, aidez-moi. Puis là, ça va bien. Oui. Fait que là, elle me dit, ben là, elle dit, on va descendre. Elle dit, vos épaules. Oh, mon Dieu. Là, ça n'a pas bien du tout. Mais finalement, à force de prier en langue, à un moment donné, dans ma bédaine, en dedans, ici, là, il y a eu comme une paix, là, comme quand un sommet d'âge. Puis là, la fille, elle me met de la potée. Là. Ça fait deux, trois sortes de potée, puis elle me beurre, puis elle me beurre, puis elle me beurre.
Oui, je connais ça, oui.
Moi, je connais ça.
Oui.
Puis là, à un moment donné, je suis plus capable. Je suis tout pleine de cette patente-là. Puis là, je pleure. Excuse-moi, je ne sais pas ce que c'est. Fait que là, je me mets à pleurer, puis on pleure. T'sais. Puis là, ça fait déjà quelques semaines, depuis les séries, que je dis au Seigneur, Seigneur, tu sais, ça se pourrait. Ça, je sais ça qu'il y a des moments où on ne se voit pas aller dans notre vie. Fait que, Seigneur, montre-moi les, tu sais, puis je voudrais vraiment m'améliorer pour toi, tu sais. Puis bon, après tout, si on aime Dieu, on est préoccupé par ce qu'il aime pour nous, hein. Fait que finalement, la fille a dit, oh, je vous comprends tellement. Puis ça fait que ça a créé une intimité. Elle s'est même confiée ses affaires. J'ai parlé du Seigneur, du coup, toute la patente, le salut, tout le cas. j'en revenais pas. En tout cas, j'ai dit, mon Dieu. Puis là, ben, le bien-être que ça m'a créé, tu sais. Fait que là, j'ai vu que le Seigneur m'avait comme guéri.
Ouais.
Puis moi, dans le fond, j'étais rendue au point de me dire, ah, oh, je vais être pris ça tout le reste de ma vie. Je m'étais comme tellement, tu sais, c'était un leurre, j'étais rendu tellement vieux, ce leurre-là, que j'étais pris que c'était une grosse racine. Puis là, quand j'ai senti toute cette paix-là, ce bonheur-là, j'ai vraiment été décontractée, puis quelqu'un n'a rien de moi, il disait, rien de toi, quand tu fais ça, tu sors cette paix-là. Puis, en tout cas, j'en revenais pas, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu sais, mais ça faisait des années, je ne demandais pas ça à Dieu. Mais pour m'apercevoir, finalement, c'est ça la conclusion, que ce problème de proximité-là, il m'a nuit dans bien d'autres choses. Parce que là, j'ai découvert pendant que j'étais là, c'est long quand je vous le compte, là, mais c'était vite, ça, dans mon cœur, dans ma tête, là, ça, en dedans de moi, je voyais des images que j'ai ratées dans mon passé, puis encore même dans mon présent, comme des moments de proximité qui auraient été possibles, que j'ai évité, comme j'ai essayé d'éviter quand ma fille m'a voulu m'offrir ça, parce que j'étais capable de me souvenir juste de l'inconfort, du malaise.
Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens
en termes? Ben, dans le fond, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec la prêche qui dit de se laisser ouvrir les yeux, de se laisser Dieu nous changer, de pas faire face, de pas avoir peur, de risquer d'aller vers nos montagnes. C'est comme David est allé vers Goliath. On a tous des Goliaths dans notre vie. Puis des fois, ils sont tellement vieux qu'on... Ils font partie de notre vie, là, tu sais, des meubles de notre maison, puis notre cœur, puis notre personnalité, puis on pense que notre personnalité est de même.
Avant de prendre le micro, tu as dit que tu étais gêné, là.
Excusez,
bien
là, ça partait, excusez-moi. Bon,
là, je suis gêné. Tu as fait prêcher, là.
Je vous encourage.
Je pense que tu es gêné.
Je vous encourage, dans le fond, à faire ça. Là, dans le fond, je crois que ça allait avec ce que vous disiez.
Oui. C'est ça quand tu donnes le micro à quelqu'un, hein? Non, merci, René. Amen. Et honnêtement, je suis convaincu que on fait le tour là, et on a des témoignages, on a des... la conclusion, c'est ça, c'est des leurres, c'est pas vrai, ok? Ce n'est pas vrai. L'ennemi est menteur, le père du mensonge, et tout ce qu'il sème en nous, c'est pas vrai. Amen. Donc on va faire ça ce matin, on va se lever, amen. On va se lever et vous allez déclarer. Oui, vous allez déclarer. Amen. On va dire ça très simplement. Amen. On va terminer ça comme ça, très simplement. On va dire ensemble, montagne. OK, là, vous décidez à qui vous parlez, OK? Décidez qui est votre montagne, quoi est votre montagne. Et on va lui parler dans le blanc des yeux ce matin. On se retourne, on dit montagne, dans le nom de Jésus, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Hey, vous aviez l'air beaucoup trop content pour parler à les gros sourires, là. Moi, je parle à montagne, je suis un peu plus fâché, là. OK? C'est sérieux à l'église, OK? Là, on va faire nos yeux fâchés. Avec conviction. Montagne. Dans le nom de Jésus. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Amen. On se passe les mains. Bonne semaine. Soyez bénis. Je vous attends en bas. Amen. Brownies. Oh.